barra inclinada, Canal Español.
Vous écoutez la radio francophone d'Auckland, Amuse-Gueule.
Kia ora, bonsoir, good evening, bienvenue sur Amuse-Gueule, la radio des francophones et des francophiles d'Auckland.
Alors, et des Belges.
On est francophones, on est francophiles. Bon, sinon, on doit commencer à dire les Belges, les Français, les Suisses, les Sénégalais, les Nouvelle-Calédoniens. Donc, on dit francophones et francophiles d'Auckland. Voilà. Donc, c'est ça de faire de la radio avec son fils. Donc, ce soir, il y a moi-même, donc Fred, à l'animation. On a Victor à la technique.
Bonjour.
Bonsoir, on dit. C'est pas grave.
Bonsoir.
Alors, on a Laurence qui va venir nous parler de Tonga.
Bonsoir.
Voilà, et on a Anatole qui va nous parler du Costa Rica.
Et toi aussi.
Voilà, et moi aussi. Et on a Caroline qui va nous poser plein de questions. Voilà. Alors, tout d'abord, on va commencer par les petites annonces. Alors, pour ceux qui aiment la science, il y a une exposition qui commence à Motat, qui a commencé vendredi, donc le 17 mai, qui s'appelle « Mighty Bright, Mighty Small ». Qui est organisé par deux centres de recherche d'excellence. L'un qui s'appelle le McDermott Institute for Nanomaterials. Donc, eux, ils font le Mighty Small. Ils s'occupent de fabriquer des matériaux très, très petits. Et puis, il y a le Dodwell Center for Quantum Technology, for Photonics and Quantum Technology. Donc, qui s'occupe de la lumière. Et donc, c'est le centre dont Stéphane et moi font partie. Et, en fait, l'exposition a ouvert vendredi parce que jeudi, c'était la journée de la lumière. Ceux qui nous écoutent depuis longtemps se souviennent sans doute que 2015, c'était l'année de la lumière. Stéphane a beaucoup parlé de lumière, moi aussi. Et donc, pour savoir aussi que le fait qu'on ait un jour de la lumière et qu'on a eu une année de la lumière vient de l'initiative de John Dudley, qui est en fait un Néo-Zélandais qui maintenant vit en France. Donc, ça va bien avec ce dont on parle à la radio. Il parle d'ailleurs très très bien français. Et c'est un des rares anglophones qui connaît les règles de 1 et 1 pour les noms. Ce que je trouve excellent. Mais bon, voilà, donc c'est lui qui a mis en place le fait qu'on a une année et maintenant un jour de la lumière, le 16 mai, qui est aussi le jour où il y a eu qu'on a la première fois qu'on a un laser. Voilà. Donc là-dessus, on va se mettre une petite musique costaricaine. Alors Victor, c'est quoi la musique?
Quiero ser.
Quiero ser.
Quiero ser.
Quiero ser. D'après Anatole. Et c'est de
José Katmani.
Ok. Alors, on écoute Quiero ser.
Cuando nos quema el sol.
sueño y hacerlo realidad. No me cambies la frecuencia, solo soy igual que
da da.
Voilà. Donc pourquoi t'as choisi cette chanson-là, Anatole?
J'aimais bien.
T'aimais bien? Je me souviens pas avoir entendu ça au Costa Rica.
Moi non plus.
Ah d'accord, c'est juste une musique costaricaine, mais c'est voilà. Quelque chose qu'on a écouté. Donc alors pourquoi est-ce que tu voulais parler du Costa Rica, Anatole?
C'était toi.
Mais pourquoi est-ce que tu parlais du Costa Rica?
Parce que tu voulais.
Ouais, et... mais parce que tu y es allé. Et pourquoi est-ce que tu as choisi d'aller au Costa Rica?
Parce que tu m'as donné l'idée.
D'accord. Ok, donc ça va aller bien. Donc en fait, le Costa Rica, c'est un pays d'Afrique centrale.
D'Amérique centrale.
D'Amérique centrale.
D'Afrique. C'est l'Amérique.
D'Amérique centrale, excusez-moi. Et donc c'est un pays qui est un des pays les plus sûrs en fait de cette région. C'est une des raisons pour laquelle on a décidé d'aller là-bas avec Anatole. Donc on est allés juste tous les deux. Et une particularité du Costa Rica, en fait, c'est qu'il y a plus d'armée. Depuis 1948, en fait.
Donc, elle l'a googlé juste avant l'émission.
Non, mais je savais que c'était dans les années 40. Donc, je crois qu'on va repasser une autre musique si ça continue, Anatole, d'accord? Donc, c'est un pays qui a plus d'armée depuis 1948. En fait, il y a eu une guerre civile dans juste après la guerre. Et en fait, pour éviter qu'il y ait de nouveau des guerres, en fait, la guerre civile a forcément eu l'appui de l'armée. Et donc, en fait, pour éviter qu'il y ait de nouveau une guerre civile, après que la guerre civile se soit achevée, en fait, le président, dont j'ai oublié le nom, a décidé d'abolir l'armée. Et donc en fait les fonctions essentielles de l'armée qui sont importantes pour le pays sont passées à la gendarmerie, mais donc il n'y a plus d'armée. Et en fait c'est pas pour ça qu'ils se sont fait envahir, que du contraire. Et donc en fait ils ont transformé une partie une grosse partie des, comment ça s'appelle encore, les endroits où les armées vivent, l'armée vit, les casernes, voilà, en école. Et donc en fait, donc c'est un des pays où le niveau de bonheur est le plus haut apparemment. Ah. Ouais. Et c'est vrai que c'est un pays assez serein. Les gens ont l'air assez assez contents en général. Mm-hmm. C'est assez relativement facile de voyager. Il y a des routes parfois qui sont non carrossables, donc il vaut mieux, enfin non carrossables.
Pas il faut difficile. Prendre un 4x4.
Il vaut mieux avoir une bonne voiture
et du jus de citron.
Et du jus de citron. Oui, on a fait l'erreur d'acheter une grande bouteille de jus de citron pur, et donc au début on l'a bu pur et c'était un petit peu.
Croyait que c'était de la limonade.
Comme quoi, il faut bien lire avant d'acheter et avant de se mettre à boire. Alors, donc deux trois mots à savoir sur le Costa Rica. Donc les Costaricains s'appellent eux-mêmes les Ticos. Donc quand on voit Tico, ça veut juste dire c'est nous quoi, c'est nous les Costaricains. Donc ils vont dire la cuisine Tico, c'est des choses comme ça. Et alors ils disent tout le temps pura vida, hein, Anatole. Mm-hmm.
Qui veut dire
la vie pure.
Mais enfin ça c'est la traduction
littérale.
Mais sinon ça veut dire genre
tout, en fait,
beaucoup de choses.
C'est un peu comme ici quand on dit quand on dit qu'il y aura pour dire bonjour, au revoir, merci. En fait là c'est un peu ça, c'est pour avida, c'est je suis content, c'est bonjour, c'est au revoir, c'est tout va bien, c'est chouette, c'est fun. Donc ils sont tout le temps en train de dire pour avida. Donc effectivement il y a moyen d'acheter 45 sortes de t-shirts différentes avec écrit pour avida dessus aussi. Il y a la moitié des hôtels, des restaurants qui s'appellent pour avida. Mais donc, c'est le slogan Pura Vida. Enfin, le slogan costaricain.
Mais le guide qu'on a eu dit que c'est aussi utilisé beaucoup pour le marketing. Donc.
Oui, c'est sûr que c'est aussi ce qu'ils utilisent, un peu leur marque de fabrique. Alors, donc, Anatole, qu'est-ce qui est particulièrement intéressant au Costa Rica?
Bah, il y a le parc national Corcovado.
Voilà.
Mais donc, c'est un parc tout au sud et tu peux y dormir la nuit.
Ça, donc en fait, il y a 6% de la biodiversité du monde se retrouve au Costa Rica. Donc comme disait un de nos guides, en fait, c'est à peu près, si on liste toutes les espèces d'animaux du monde, il y en a une sur 20 à peu près, on la trouve au Costa Rica.
La biodiversité animale.
Oui, animale, pardon.
Donc pas juste les choses vivantes.
Non, pas juste les plantes, mais juste les animaux. Et le Corcovado a la moitié de cette biodiversité. Donc nous, c'est le dernier parc qu'on ait fait, c'est tout au sud. Et il faut dire qu'on est arrivé et au bout de 10 minutes, on a vu un tapir, et donc une maman tapir et un bébé tapir, ce qui est quand même impressionnant, hein, oui.
Ils mangeaient des feuilles.
Voilà, bah oui, forcément, c'est des...
Et donc, il y a plus qu'un parc. Parce que c'est le dernier que vous avez
fait,
donc il y a plusieurs parcs au Costa Rica.
Oui, je pense, si je me souviens bien, il y a à peu près 30% du territoire qui est en parc national. Donc en fait, ils ont clairement misé beaucoup sur le tourisme et ils essaient d'avoir une image verte. Et c'est un peu comme en Nouvelle-Zélande. C'est vrai qu'ils font pas mal d'efforts. Il y a parfois des choses qui restent un peu. Pas aussi vert que ce qu'ils voudraient bien le faire croire. Mais par exemple, je crois qu'ils sont maintenant 99% de l'électricité est renouvelable, je pense.
Wow.
Donc il y a quand même des choses qu'ils font, mais par contre, il y a encore beaucoup de multinationales comme Del Monte, toutes les grosses multinationales qui produisent des fruits. Et par exemple, les gens nous disaient, ils savent pas bien contrôler le nombre de pesticides qu'ils utilisent et des choses comme ça. Donc, mais les producteurs locaux, ils essayent de préserver cette image verte, écologique, parce que clairement, c'est ce qui fonctionne avec le tourisme. Et c'est vraiment, on se sent vraiment en sécurité par rapport à d'autres pays d'Amérique centrale ou du Sud. Et du coup, il y a énormément de Français. Qui voyage, apparemment c'est très à la
mode. Qui voyage ou qui habite ?
Non, qui voyage. Ouais.
Mais ils ont beaucoup eu café et apparemment faire du robusta, c'est illégal. Donc,
ouais,
pas donc, de robusta.
Ah bon ?
Ouais. Donc en fait, le café, c'est une des choses qu'ils exportent le mieux.
Plus, ouais.
Et notamment, ils ont ce qu'ils appellent les qualités exceptionnelles
supérieure.
Et tout ça.
Mmh.
Et donc. Pour être sûr qu'il n'y ait pas du robusta qui se mélange avec l'arabica. Donc, c'est interdit, en fait, de même cultiver le robusta. Voilà. Et c'est d'ailleurs là que Starbucks a une grosse partie de ses plantations aussi.
OK.
Voilà.
Et quelle est la population du Costa Rica?
C'était 4,5 millions, quelque chose comme ça.
C'est
à peu près la population de la Nouvelle-Zélande sur un territoire un tout petit peu plus grand que la Belgique.
D'accord.
À peu près. Je
et
me souviens plus des
chiffres. 30% de parc.
Voilà.
D'accord.
Donc, c'est pas très dense. Enfin, ça va. Bon. Bah, quand même.
Vous n'avez pas senti.
Non. On ne sait pas.
De la
surpopulation. Enfin, San José, c'était un peu. Quand même, il y avait beaucoup de gens. Des gros buildings.
Oui, San José, la circulation, en arrivant le soir après ne pas avoir dormi, prendre la voiture, c'était un peu compliqué. Bah, surtout qu'ils conduisent quand même un tout petit peu à la manière méditerranéenne. Hein, donc,
Et papa nous avait mis la mauvaise adresse, donc on s'est retrouvés à 60 km de la capitale.
En plein milieu de la nuit dans les montagnes. Donc, c'était un peu le baptême du feu. Mais
bien.
Bon.
On est arrivé à minuit.
Bon.
En atterrissant à 10h. Voilà. Mais tout s'est bien passé, on a fini par trouver notre hôtel.
Nous, on est atterri à 8h.
Ah, pardon. Voilà. Donc, quel était ton endroit préféré au Costa Rica?
C'est Corcovado.
Corcovado. Pourquoi?
Parce qu'il y avait beaucoup d'animaux.
Ok.
Dans la nature, enfin, c'est pas un type de zoo ou d'espace animalier, c'est juste un parc et
ouais,
tu as accès facilement aux animaux.
Ouais, c'est un des plus grands parcs, en fait. C'est le plus grand parc.
Tu n'as pas nécessairement accès facilement aux animaux, mais.
C'est eux qui décident s'ils viennent te voir ou pas, quoi.
Enfin, c'est aussi que tu n'as pas le. Enfin, avant, c'était tu ne pouvais que y aller avec un guide. Mm-hmm. Maintenant, c'est. Si tu veux rester la nuit, tu dois y aller avec un guide. Si tu restes que la journée, je crois que tu n'es plus obligé d'aller avec un guide. Mais il y a plusieurs endroits où les bateaux partent pour y arriver. Ou si tu vas sans guide, ils ne te laissent pas de toute façon. Donc,
ouais, voilà. Il faut mieux assurer le coup avec
donc
un guide.
Donc, nous, on avait pris un guide et donc on a passé la nuit. C'est un des rares parcs où tu peux passer la nuit, la plupart. En fait, il y a beaucoup des parcs. Enfin, moi, c'est ce que j'ai trouvé. On n'a pas fait tous les parcs. On en a fait 5 ou 6. Et souvent, le parc est assez grand. Mais en fait, la partie où tu peux aller, il y a
pas si grande que ça.
5 km de chemin, quoi.
D'accord.
Et le parc, il fait. Et donc, j'imagine que le reste est assez bien préservé. Et donc là, Corcovado, en fait, c'est vraiment le chemin côtier. Et donc nous, on est allé, on a passé la nuit au camp du milieu. Donc on est arrivé en bateau. L'autre moyen, c'est 16 km à pied. On en a fait 2 ou 3 le matin et ça m'a suffi. Notre guide avait l'air de dire que c'était quand même assez dur. En fait, tu marches le long de la plage, donc dans le sable, ouais. En plein soleil, il fait 35 degrés avec l'humidité et tout. Enfin, moi, ça m'a suffi, donc ça me tentait pas des masses. Je pense que c'est plus sympa d'arriver en bateau, de déposer son sac à dos et puis de faire des balades autour.
On a croisé carrément. Des gens le premier jour qui faisaient cette balade.
Cette marche, hein.
Qui était presque là, et puis notre guide leur a dit, je crois, il reste encore 6 heures de marche. Et puis,
ils n'étaient pas contents.
Ouais.
Ils n'étaient pas contents du tout. Voilà. Oui. Mais donc, mais en fait, c'est Corcovado. Il y a un autre parc comme ça qui s'appelle Cabo Blanco. En fait, c'est un parc. Une partie du parc, c'était déjà devenu des terrains fermiers.
Bah, c'est la même chose avec Corcovado.
Oui, oui. Donc, Cabo Blanco et Corcovado, en fait, ils avaient déjà commencé à donner des terrains carrément à des gens pour établir des fermes. Et puis, en fait, il y a un couple de Danois. Qui à Cabo Blanco qui s'était établi et qui se sont battus pour que ça devienne une réserve dans les années 70, je crois. Et donc ça a été la première réserve naturelle du Costa Rica. Et puis c'est eux aussi qui voulaient que Corcovado devienne une réserve. Le mari, donc il s'appelait Nils, j'ai oublié son nom de famille, mais je vais le retrouver.
Et
il s'était fait assassiner, et c'est comme ça. Et du coup, le gouvernement, en mémoire de son assassinat, a déclaré Corcovado un parc national aussi.
En fait, c'était les multinationales pétrolières et tout qui ont demandé à des gens de le tuer, et parce qu'eux, ils voulaient garder ce territoire, ils l'ont perdu. Donc, voilà. Prout.
Et donc en fait c'est assez impressionnant de voir ceux qui font du plantage d'arbres dans les îles ici dans le Oraki bassin, ils ont sans doute vu ça aussi. C'est assez fantastique de voir des photos des années 60 et 70 où c'était devenu des prés et puis maintenant c'est une jungle, quoi. Franchement, on s'écarte des chemins, on se perd tout de suite et on croise des tapirs. Donc il y a encore une petite partie qui était une forêt primaire, mais la plupart du Corcovado c'est une forêt secondaire, et maintenant il y a des tapirs qui se baladent et la moitié de la diversité du Costa Rica. Donc
mais aussi sur Corcovado, il y a cette piste d'atterrissage pour si tu veux y aller en avion. Je crois qu'il n'y a plus vraiment beaucoup de gens qui font ça.
Non, le seul pilote qui y arrivait, il a pris sa retraite et il y en a plus d'autres qui veulent bien.
Mais déjà, la piste, elle est un peu zigzag, quoi. Et c'est sur un truc bossu. Et sur le côté de la piste, il y a un endroit où il y a des ruines d'avions. Donc,
ça.
Voilà. Et c'est aussi Corcovado, tu peux pas te balader après le coucher du soleil parce qu'il y a le serpent le plus agressif qui s'appelle le fer de lance, qui est une vipère en fait. Et donc comme la nuit l'avion ne peut pas atterrir, tu peux pas sortir parce que si tu te fais piquer la nuit, tant pis pour toi parce que tu as 6 heures pour trouver donc ils veulent pas que tu sortes la nuit. C'est sympa hein, mais nous on n'a pas vu un fer de lance en avion.
Mais non, puisque vous êtes pas sortis.
On a vu des cockroaches. C'est quoi cockroach?
Des
cafards.
Des cafards.
Des cafards géants.
Ouais, des gros cafards.
Wow.
On a vu pas mal de serpents et des grenouilles. Hein, parce que le Costa Rica, c'est quand même...
On a vu une tarentule.
Dans un arbre. Une tarentule. Alors, Caroline demande ce que c'est qu'une tarentule. C'est une grosse araignée plein de poils qui a pas l'air sympa et qui peut te faire mal aussi.
Elle est venimeuse?
Très.
Ouais. Bah, elle était dans le fond d'un trou d'un arbre et elle voulait pas sortir.
Cool.
Voilà. Mmh. On se remet encore une petite musique costaricaine. Victor, t'en as une de prête?
Donc, Anatole, c'est Presagio la prochaine.
Voilà.
Ouais.
Bon, d'accord.
Alors. Donc c'est du même monsieur?
Non, c'est il s'appelle d'autre. Fidel Gamboa.
Fidel Gamboa, c'est une autre musique costaricaine choisie par Anatole.
Bon.
Huele agua, monte adentro, y en el cielo braman tambores de trueno. Huele agua, decía mi abuelo, un garrote de agua, golpean cerros, y el viento se ha puesto negro, y sabe a miedo. Y allá vuelan zopilotes en torbellinos sobre los techos, y se enredan las arañas en mi pelo, que huele a agua, monte adentro, y en el cielo braman tambores de trueno, que huele a agua, decía mi abuelo. Garrotes de agua golpean los cerros, y el tiempo es un agujero, y sabe a pólvora, se retuerce en el pellejo de la desgracia, la mala hora. Huele agua en el desierto y a lo lejos. Animales rompiendo la selva, tragándose los árboles. Son los garrobos, llamarada, mariposas negras en el aire. Cuidado, mamá, que ya vienen las bestias. Se acerca levantando polvo en el llano. Cuidado, mamá, que vienen en manada. Las fieras terribles y hambrientas están aquí. Cuidado, mamá, que allá vienen las bestias. Se acerca levantando polvo en el llano. Cuidado, mamá, que vienen en manada. Y a pesar de todas las ranas siguen cantando. Que huele agua, monte adentro, y en el cielo brama tambores de trueno. Huele agua,
huele agua,
decía mi abuelo. Garrotes de agua golpean los cerros, y en la calle rondan máscaras de carcajada. Me persiguen cinco muecas y soy preso de una fábula. Ha llovido, pero siempre en la distancia huele a...
Voilà, donc c'était, Victor?
Fidel Gamboa Presagio.
Voilà. Alors, donc, juste pour dire, maintenant j'ai été vérifiée, donc, c'est parce que je me souvenais qu'il s'appelait Nicolas, le monsieur, il l'avait renommé Nicolas. Mais en fait, son vrai nom danois, c'était Olof Wessberg. Et sa femme, c'était Karen Mogensen. Et donc, ils se sont battus dans les années 60 pour faire en sorte... En fait, ils avaient acheté un terrain et puis ils essayaient de ramasser des graines pour replanter leur terrain. Et puis, c'est comme ça qu'ils se sont battus pour Cabo Blanco devienne une réserve naturelle. Et c'est un des endroits où il y a le moyen de faire une des plus longues balades tout seul. Et donc là, en fait... c'est 5 km, il fait assez chaud, donc c'est quand même c'était pas super facile comme balade, hein, les 5 km, Anatole. Qu'est-ce que t'en penses?
Bon, ça allait.
Ça allait, mais c'était chaud. Mais par contre, une fois qu'on arrive sur la plage, c'était joli. Hein.
Mm-hmm.
C'était super joli, la plage. C'était, il y avait des hamacs, il y avait des petites tables, il y avait du sable.
Il y avait un hamac, non?
Ouais. Qu'on a pris d'assaut et on s'est installé dans le hamac et on n'a pas bougé pendant 2-3 heures. Uh-huh. Voilà.
On a nagé,
bah, ouais. Oui. Et on était en gros 5 ou 10 sur cette plage. Alors que juste à côté, il y a les plages de surf super connues où il y a tous les artistes d'Hollywood qui surfent. Donc c'est tout à fait différent comme ambiance, mais c'était assez sympa. Voilà.
Super.
Ouais, c'était un de mes endroits préférés, je crois, cette plage. C'était bien gay. Tout beau, tout calme. Voilà. Et sinon, il y a Corcovado. Qu'est-ce qu'on avait, ce qui était pas mal aussi, c'était, c'est aussi une réserve maritime, en fait.
D'accord.
Et donc, il y a une île qui s'appelle Coco Playa? L'île de Corcovado.
Coco Playo.
Coco Playo. Et donc là, on a nagé avec des tortues.
Hmm.
Donc ça, c'était bien.
Mais t'as reçu les vidéos de la personne?
Non, on a croisé des Françaises qui avaient une caméra sous-marine et donc elles vont nous envoyer un film.
Enfin, ça fait 4 semaines.
Bon, elles avaient dit qu'elles restent encore 3 semaines, donc voilà.
Ah.
Donc, donc il y a aussi pas mal de tortues au Costa Rica. Par contre, on n'était pas du tout à la bonne saison. Les tortues, c'est juillet, août. Mais alors, du coup, c'est la saison des pluies. Donc, nous, on était partis au moins, il faisait pas.
Bah oui.
Il faisait encore sec.
Ouais. Voilà. C'est quand même plus agréable, surtout si on doit marcher. Mais bon, l'humidité, quand même, ça a l'air d'être un...
Bah, dans le sud, surtout, là, du côté Pacifique, sud, enfin, dans le sud. Le sud du Costa Rica, là, il faisait vachement chaud. Du coup, quand on est rentré à San José, après avoir passé une semaine dans le sud, on avait presque froid. Alors qu'au début, on trouvait que San José était un peu chaud, mais voilà. Donc, on va changer de. On reste dans le Pacifique, enfin. Ce qui est bien aussi au Costa Rica, c'est que du coup, on passe des Caraïbes au Pacifique. Donc, les tortues, il y en a des deux côtés, et apparemment, sont différentes. Mais donc, nous, on a vu que celles du Pacifique. Et donc, Tonga, c'est aussi dans le Pacifique.
Tout à fait. Ça fait partie de la Polynésie. Donc, c'est un archipel polynésien. Et c'est situé à 2h30 d'avion de la Nouvelle-Zélande, direction nord-nord-est.
Mm-hmm.
Et c'est aussi un pays très humide.
Oui.
Pays très humide, chaud et humide, où on peut avoir jusqu'à 2 mètres de précipitation dans l'année. Donc, ça rigole pas.
Ah, c'est plus que Auckland, non?
Ouais. Mais on le sent différemment malgré tout, parce que j'ai eu la chance d'y habiter pendant 2 ans. Et c'est vrai que c'est pas ce dont je me souviendrai. J'ai peut-être été chanceuse, mais je me souviens surtout de la chaleur.
Mmh.
Et puis des nuits... chaud et humide, où c'est difficile de trouver un sommeil réparateur.
Et t'as habité où?
Alors, j'ai habité la capitale, qui s'appelle Nuku'alofa, un quartier de Nuku'alofa. Et Nuku'alofa regroupe à peu près 30% de la population de Tonga, parce que Tonga, c'est un peu plus de 100 000 habitants. C'est 170 îles, dont une petite quarantaine qui ne sont pas habitées.
170 pour les Belges.
170, merci Antoine.
Parce que la capitale, la plupart des touristes ne la voient pas, parce que dès qu'on arrive, on s'échappe. Hein.
Ben oui, parce que les gens vont dans les groupes d'îles du Nord, qui s'appellent donc Vavaou, très connue des croisiéristes, parce qu'elle a une grande baie, l'île principale a une baie en forme de croissant, qui est extrêmement bien protégée pour toute la période cyclonique. Mmh. Donc les voileux connaissent très bien Vavaou.
Ouais, nous, c'est là qu'on est allés.
Ah ben voilà. Et puis après, il y a le groupe du centre qui s'appelle Hapai, où là on a encore un groupe d'îlots et d'îles. Et puis on a Tonga Tapu qui est donc l'îlot, le groupe d'îles principal où se trouve Nuku Alofa sur l'île de Tonga Tapu. Mmh. Et à côté on a une île qui s'appelle Ewa qui est une île pratiquement primaire en fait, qui a été très très peu
touchée
par l'homme. Et elle est vraiment pas très loin et c'est assez magique.
Et donc toi, ton groupe d'îles préféré, si tu as le choix, c'est celle-là. Donc comment alors, tu dis qu'elle s'appelle
Tonga Tapu.
Non,
Vavau.
Non, celle qui est toute primaire.
Ah, Ewa, c'est juste une île du groupe du Sud.
Ah, d'accord.
Mais j'ai malheureusement pas eu l'occasion de voyager dans tous les groupes d'îles de Tonga. J'ai été à Vavau, mm-hmm. et puis Tonga Tapu, et j'ai jamais découvert Apai,
ah,
apparemment,
ouais.
qui est très jolie aussi.
Mm. Et donc, tu préfères Vavau ou Tonga Tapu?
Ben, Tonga Tapu, c'est là où j'ai habité, donc j'aime ouais. Tonga Tapu parce que c'est aussi là où est la famille de mon mari, donc mon mari est tongien, et c'est la raison pour laquelle j'y ai passé 2 années. Et c'est vrai que c'est pas du tout le même genre d'habitat que je connaissais auparavant, donc c'est très sauvage, il y a très peu, il y avait, c'était dans les années de 2000 à 2002, il y avait très peu de panneaux indicateurs, il fallait être avec un tongien pour savoir où on allait. Toutes les plages sont des plages secrètes, entre guillemets, c'est-à-dire que c'est toujours entre le manguier et le champ de Banane Twango.
Nous, on voilà, est allés, Anatole était tout petit, mais c'est encore un peu comme ça.
Ouais. Et c'est ça qui est chouette, en fait. C'est le côté très nature et simple. Donc, j'ai beaucoup apprécié ce côté-là. On y a toujours des amis. On y est retourné régulièrement tous les 2 ans, jusqu'au décès des grands-parents récemment. Mais les enfants ont aussi la double culture tongienne et française, du coup.
Et donc, et tes enfants, ils parlent un peu le...
Malheureusement, non, parce qu'il fallait faire un choix des langues utilisées au sein de la famille. Parce que nous sommes rencontrés en anglais, et qu'après, on est partis à Cergy-Pontoise, faut pas le dire trop fort.
C'est beaucoup moins romantique que Tonga, ça.
Exactement. Et ça faisait un peu un indien dans la ville, quand on y repense, avec Swanee, qui était absolument pas du tout... qui avait jamais été dans l'hémisphère nord et jamais dans une grande ville comme ça, une banlieue comme ça.
Ah oui, non,
donc ça avait été assez intéressant, mais très positif, parce que les Tongiens sont des gens positifs et toujours, ils prennent la vie comme elle vient, comme elle est, et passent pas leur temps à se lamenter ou pas être content de ça ou à comparer. On est assez fort comme là-dedans, nous.
C'est vrai que moi ça m'avait étonné.
Pas du tout.
Quand on était allé avec Anatole, donc. La madame a dit, vous voulez une voiture? Enfin, elle dit, vous voulez une voiture? On dit oui. Alors, elle nous a trouvé une voiture. Bon, c'était la voiture du cousin qui s'est privé de voiture pendant 2-3 jours.
C'est
mais
pas grave.
Oui. Parce qu'on n'avait pas pris pour tout le temps. Puis, on avait quand même indiqué qu'on voulait vaguement un siège enfant. Puis, ils sont arrivés avec une capsule alors que Anatole avait déjà 1 an et demi. Puis, elle nous a regardé. Elle a fait, vous savez, ici.
Oui, c'est ça.
Donc, on l'a gardé sur nos genoux, quoi.
Ben oui, il n'y a pas de feu rouge, il n'y avait pas de ceinture de sécurité obligatoire. Les gens ne roulent pas comme des sauvages. Hein. À 40, on va très vite déjà. Donc, il n'y a pas vraiment beaucoup de risques. Et puis, c'est une vie agréable parce qu'elle est simple et sereine. Voilà. Donc, c'est ce que moi, j'ai retenu de ces 2 ans passés là-bas. Et puis, elle s'appelle aussi Friendly Island, donc l'île amicale, parce que quand c'est James Cook qui l'a découverte,
ouais.
et quand il a découvert l'île, j'ai pas retenu la date, j'aurais pu la noter quelque part, il est arrivé à une période de festive particulière. Et donc, on donnait au roi les premiers fruits, etc., etc. Il les a trouvés super sympas. Et puis, ils l'ont bien rempli de nourriture et tout. Et en fait, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils avaient l'intention de le manger, parce que les Tongiens étaient cannibales, il faut le rappeler. Et que James Cook a failli finir sa vie à Tonga, dès qu'il est arrivé. Mais les différents... protagonistes de l'affaire n'étaient pas d'accord sur la façon
de
s'y prendre.
Ah,
donc il a eu la vie sauve. C'est l'histoire qui court de nos jours encore. Il faudrait demander à Swanee sa version tongienne de l'histoire, mais c'est comme ça que c'est présenté. Donc il y avait ça. Et puis l'autre la personnalité la plus marquante de Tonga, c'est la reine Salauté, qui a été invitée au couronnement de la reine Elisabeth donc 1953. Et elle faisait 1m91, hein, la reine Salauté, elle imposait, elle était assez...
Ouais, mais les Tongans sont très très grands. Hein.
Ouais, ils sont grands et puis balèzes.
Ouais.
Et du coup, Queen Salauté était dans une des carrioles, là, des carrosses là, qui suivaient la reine, et puis il s'est mis à pleuvoir. Et donc, tout le monde a bâché les carrioles. Et la reine, et forcément non, puisque c'était le couronnement et le défilé, quoi. Donc, la reine Salauté, de la même façon, n'a pas couvert son carrosse par respect, parce qu'elle se trouvait en dessous de la reine. Et donc, elle s'est fait remarquer. Et Tonga était... Ça a démarré, en fait, une grande complicité ou respect... entre les deux pays, et la reine Elisabeth est toujours très très proche et très liée au peuple tongien.
Mais du coup, ça ne fait pas partie du Commonwealth.
Si, c'est une monarchie, une des seules encore en place. C'est une monarchie constitutionnelle.
Ouais, comme en Belgique.
Depuis 2010, parce que avant c'était une monarchie absolue, et il y a quand même eu un mouvement démocrate, on va dire, qui s'est mis en place dans les fins des années 80 à peu près. Et ils ont vraiment essayé de faire bouger les lignes de cette monarchie avec les nobles qui dominaient vraiment tout le royaume. Et un grand, grand, grand respect du roi. On allait en prison si on parlait mal du roi. Enfin, c'était quelque chose d'assez puissant. Ils ont eu un bon roi, Tupou IV, qui a régné pendant 40 ans. Qui est décédé en 2006.
C'est celui qui a perdu énormément de poids.
Oui, celui qui faisait la grosse publicité sur... Il y avait des cartes postales à Tonga, parce que j'habitais là-bas à l'époque, où on voyait le roi sur un vélo, donc on voyait presque plus le vélo. Et il y avait deux gardes du corps à côté à pied, parce que le vélo avançait vraiment très lentement. Et c'était pour déclencher un élan de
vie plus saine
auprès
parce qu'il a perdu genre la moitié de son poids ou un truc
ouais,
comme
mais
ça,
il était énorme hein,
ouais, oui enfin il est oui, passé oui. de 300 à 150 kilos
ouais,
un truc comme
on va
ça
dire
mais
ça.
C'est énorme
ça.
Quoi
ouais,
pas
ouais, c'est ça parce que la nourriture à Tonga c'est quand même l'élément principal, la nourriture et la religion.
On peut avoir du homard tous les jours quand il y a pas tempête.
Ouais, moi j'ai pas mangé ça là-bas. C'est plus langouste en Calédonie,
oui,
moi. Mais à Tonga, on mange surtout le cochon en fait, le pouaka.
Ouais.
Et c'est vraiment tout à fait. Et les chauves-souris, qui sont vraiment le mets comme l'ortolan pour le président français, qui était un petit oiseau qu'il avait le droit de manger lui uniquement. Et ben là, les chauves-souris sont réservées pour
les nobles,
la royauté et le roi principalement. Ouais. Donc il y a un quota très 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 strict et je sais qu'à chaque fois qu'on va à Tonga, on arrive à frauder pour avoir des chauves-souris parce que c'est vrai que c'est les grosses flying fox là
c'est
qui
bon.
Sont ouais c'est très très bon. C'est... Enfin ça dépend comment c'est cuisiné mais
tu m'en ramènes?
Ben il faut qu'on aille à Tonga.
Je suis pas sûre que MPI néo-zélandaise soit très contente si tu ramènes de la chauve-souris.
Non il faut aller sur place manger.
Parce que nous à Tonga il y avait du crayfish et
d'accord.
Mais sauf quand il y avait tempête.
Ouais,
alors là,
ouais.
En fait, ils te faisaient le même plat au même prix, mais au corned beef. On leur a dit, vous savez, un hamburger au crayfish et un hamburger au corned beef.
C'est pas la même chose, c'est pas le même prix.
Ah, mais oui, il y a tempête aujourd'hui, alors il n'est pas frais, enfin, il n'y a pas de homard.
Bah oui. Ouais.
Ouais, enfin, c'était peut-être de la langouste, mais. Enfin,
ouais, mais après, à ton gâteau, c'est peut-être pas la même chose. On mange du poisson, on mange de la pieuvre, l'octopus. Mmh. On mange les roussettes. Et on mange, principalement le poisson de saison, en fait, hein, parce que c'est ça qui est agréable à Tonga par rapport à tous nos pays ultra développés, c'est qu'on mange localement, enfin, les produits locaux de saison. Et après, bon, il y a des supermarchés qui ont vu le jour et la donne a changé.
Nous,
mais
là, on était, il y avait juste des épiceries. Et,
c'est ça.
Des petites épiceries. Alors, il y avait beaucoup de poulet. Enfin,
Alors, le poulet, après, c'est vrai que bon, c'est un peu du poulet de batterie qui arrive en grande barquette congelée.
Ah non, mais nous, il y avait beaucoup de poulet qui courait, quoi.
Ah oui.
D'ailleurs,
qui
savait à peine parler avait appris à faire le chant du coq de manière.
Fantastique.
Fantastique.
Ah bon.
Ouais, d'ailleurs, même. Quand on est quelques mois après qu'on soit rentré, il y a eu le nouvel an chinois, c'était l'année du coq. Et dès qu'ils voyaient une lanterne en forme de coq, ils se mettaient à faire le chant du coq. Parce qu'il y en avait partout, il fallait courir partout. Mais du coup, c'était du poulet qui courait, quoi.
Oui, alors, ben, nous, dans la famille, il y a aussi du poulet qui court, et cela. D'ailleurs, c'est le seul pays où tu manges du poulet qui est nourri à la noix de coco et du cochon qui se nourrit de coquillages. Parce qu'il y a une partie de l'île où les cochons pêchent à marée basse.
Ah ouais?
Et ils sont réputés pour avoir un goût de mollusque.
C'est des cochons free range.
Ouais, carrément.
C'est comme l'iguane surfeur qu'on avait vu à Corcovado. Il y a un iguane, on en a vu un comme ça qui se balade sur la plage et puis il va dans la mer.
Il est sorti du bois.
Forêt.
Il a couru jusqu'à l'eau.
Ouais.
Et puis il est allé dans l'eau, il a attrapé une vague, il est allé dans l'eau, il a attrapé
une vague. Comme un surfeur, quoi. Il se mettait dans l'eau, il attendait, comme les surfeurs font, là, il attendait et puis il se mettait sur la vague et il revenait sur la plage et puis il retournait. Oh. Vraiment, on était là. Ah bon, d'accord.
Excellent.
Bon, on va se mettre une petite musique.
Oui, alors, je suis revenue
avec
le groupe qu'on avait un petit peu squeezé quand j'étais venue avec mes groupes de musique.
Oui, celui où on a eu 3 secondes à la fin.
C'est ça.
Donc, comment il s'appelle ?
Sukara.
Sukara.
Sukara. Je vous encourage à aller les découvrir parce que c'est vraiment un groupe que j'aime beaucoup et pas uniquement parce que un des musiciens est un de mes meilleurs potes. Mais
pas du tout, t'es pas du tout. Non, ils sont excellents d'ailleurs.
Je suis très objectif. Et voilà, donc on va reprendre Dénouer le fil qui est celle que moi j'aime bien. Et voilà, c'est un groupe de Tours, ça fait 20 ans qu'ils travaillent ensemble, ils se font vraiment d'abord eux plaisir.
C'est toujours chouette ça.
Voilà, et ils ont une belle osmose et un bel endroit de répète le week-end, et c'est chouette.
Ok, allez, mets-nous ça Victor.
Dénouer le fil, expose le tourment de la raison. Dénouer le fil, expose le tourment de la raison. Dans la bouche, retenir le mot, pas de retour ni d'esquive, il faut juste un moment. Tourner en, s'éloigner du courant, à la merci d'une fleur, fraîchement épanouie, à la merci d'une fleur. Fraîchement épanoui dans la brume odorante de lumière. Dénouer le fil, expose au tourment de la raison. Tourner, s'éloigner du courant, à la merci d'une fleur, fraîchement épanoui,
des nouées de fil. Expose tourment de la raison. Qui s'élise à point pour relier l'anagramme de la folie du jour qui vient à point nommé rafraîchir le sang vide radio. Quand le point vient remplacer la coupe.
Maman, t'as les cheveux en pétard.
Toi aussi. On s'est fait un petit peu avoir par le...
Oui, on était en train de parler de Tonga, de souvenirs, de comment est-ce qu'on fait la fête à Tonga ou pas la fête. Et on a vite remis nos casques. Ouais. Allez hop. Ouais. Voilà, donc c'était assez planant comme musique en fait.
Ouais.
J'ai quand même écouté d'une oreille.
Oui, c'est très chouette. Et ils ont pas mal de titres. Là, ils viennent de sortir un petit... je l'avais amené, mais bon... On n'est pas à la... Ah non, il est dans mon sac. Je l'avais amené pour...
pour ma spéciale néo-calédonienne.
Notre technicien là qui fait de la musique, comment il s'appelle?
Yvan.
Yvan, ouais. C'est ça. Donc je voulais lui offrir le CD de Tsukara, donc je le ferai à l'occasion.
Voilà.
Parce qu'ils viennent de sortir un CD 4 titres et ils ont maintenant une batteuse professionnelle et donc ils sont montés d'un cran. Et j'espère qu'ils vont pouvoir... ouais, s'étendre et peut-être un jour venir jusqu'à chez nous.
Bah ouais. Donc Yvan, si tu nous écoutes, il y a un cadeau qui t'attend.
C'est ça.
Voilà. C'est ça, il faut venir à la radio, les amis. On reçoit des cadeaux, on se fait plaisir. Donc alors, Tonga. Donc on a continué à parler de Tonga, donc on va recommencer.
Oui.
Alors, on en était donc...
On était en train de parler du poids de la culture et de l'impact que ça avait sur la vie... moderne pour les Tongiens. C'est un peu la même chose en Nouvelle-Calédonie puisque on y a passé 13 ans et le poids de la culture chez les Kanaks, c'est la même chose. C'est-à-dire que il y a un poids financier tellement important pour les familles que ça en devient pas ridicule mais presque. Il faut à l'époque où la culture était aussi importante et aussi bien respectée, on apportait ce qu'on avait produit, ce qu'on avait élevé, on tuait les cochons, on tuait les chevaux, on tuait les bœufs, on tuait les vaches, et on amenait des paniers de tarot. Quand j'habitais là-bas, tout au début, j'ai eu l'honneur de participer à un repas, un festin, qui avait été mis en place pour un grand ponte religieux. Alors, je ne sais pas quel titre il avait, parce que je ne suis pas très, très à fond dans la religion. Mais en tout cas, il était suffisamment important. Il était, je pense, catholique.
Surtout que c'était à Tongatapu, ça.
Oui, Tongatapu. Et chaque village avait amené sur une table longue de peut-être 20 personnes par village, une quantité phénoménale de nourriture.
Ouais.
Des trucs incroyables. J'avais jamais vu autant de nourriture en une fois, qui allait, pour la plupart, c'est jamais gaspillé. J'allais dire gaspillé, mais c'est pas vrai. Pas manger tout de suite, mais ramener et redistribuer. Ouais. Donc la nourriture n'est pas gaspillée. Hein. Puis il y a les animaux à nourrir. De la même façon qu'il y avait un tapas. Donc le tapas, tout le monde connaît ce...
L'espèce de tapis.
Oui, c'est une sorte de... de matériel qui est fait à partir d'écorces d'arbres et il y a un traitement énorme. Ça prend plusieurs mois pour réaliser un tapas, puis après il est décoré avec pareil de l'encre végétale.
Il y a des très très beaux tapas en Tonga.
Ouais, très très joli. Et là il y avait un tapas qui faisait 250 mètres de long en l'honneur de ce ponte religieux, quoi.
Donc ça veut dire que c'était des mois de travail, ça.
Ah ben oui. Oui, j'irais même jusqu'à plus. Alors après, c'est vrai qu'ils les collent, c'est un peu un patchwork et ils ont la technique.
Je veux dire, mais c'est en énorme. Total,
c'est énorme, énorme.
En journée humaine, enfin en heure homme.
Des mois.
Wow. C'est clair que.
Et donc maintenant, c'est vrai que le poids de la tradition. On parlait aussi des décès, puisque malheureusement nos vieux dans la famille sont partis il y a 2 ans et 3 ans. Pareil, c'est très compliqué de faire venir d'abord une moitié de la famille qui est plus à Tonga maintenant, puisque les Tongiens, plus de la moitié habitent en dehors de Tonga, en Nouvelle-Zélande.
Pour la plupart des îles du Pacifique.
Ben oui.
Je crois que maintenant, avant c'était Auckland, maintenant je pense que c'est Los Angeles qui est la plus grande ville du Pacifique. Enfin, pacifique.
D'accord, ouais.
Parce que...
Plausible.
Je pense que, parce que par exemple, nous on vient d'aller à Niue, il y a 1200 habitants.
On devient
1600.
On est allé
l'année dernière.
Il y a 1600 habitants à Niue, il y a 1600 Niuans à Niue, et puis il y en a 6000 en Australie et 6000 en Nouvelle-Zélande.
Voilà. Ben voilà.
En fait,
mais Niue en plus c'est vraiment tout petit. Tonga c'est plus grand, c'est grand si tu veux. Mais bon, je crois qu'il y a 40 000 Tongiens à Auckland. Voilà, nous toute la famille biologique de mon mari habite à Auckland depuis très longtemps. Et oui, voilà. Donc c'est vrai que le poids de la culture est complexe maintenant.
Ouais, ouais.
Il y a quand même une grosse partie de la famille qui est à l'étranger, qui nourrit la famille qui est à Tonga.
Ouais, ouais.
Parce qu'il n'y a pas tellement non plus de travail payé. Il y a beaucoup de travail au champ, de travail de village, mais pas de quoi vivre en tant que tel. Et puis après, ben voilà, un décès, il faut nourrir, comme je disais, 1200 personnes, si c'est un vieux, parce que ben, entre toutes les ramifications de ses connaissances, de son parcours de vie et de sa famille, voilà. Donc c'est un petit peu compliqué maintenant. Mais on a un nouveau roi qui est beaucoup plus
moderne
et démocrate dans l'esprit, donc ça se passe différemment. C'est en train de glisser sur quelque chose que je ne connais plus.
Ah, et en bien
sans doute en bien, oui, mais on n'a pas été suffisamment longtemps sur place pour le sentir. Les rois se sont succédés rapidement, puisque l'actuel est sur le trône depuis 7 ans et le précédent depuis 5 ans, c'était deux frères. Mm-hmm. Et le papa a 40 ans. Donc,
Donc ça fait beaucoup de changements en peu de temps. Voilà. Alors qu'il y a eu pas mal de...
C'est ça. Et ça a glissé d'une monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle. Et le premier ministre a été celui, donc Akilisi Polua, qui a été l'instigateur de ce mouvement démocrate fin des années 80 et qui est devenu premier ministre en 2014.
Et donc, il a quand même mis 30 ans
À monter tout ça, lentement, mais sûrement. Avec... Il y a eu un gros coup d'État, pas un coup d'État, mais un riot.
Une mutinerie.
Ils ont mis la ville à feu et à sang en 2006. Et tout le centre-ville de Nuku'alofa a été rasé.
Je me souviens, nous, on était déjà là. On était déjà en Nouvelle-Zélande, je veux dire.
Ouais, et ça avait été très impressionnant de retourner sur les lieux l'année d'après et voir ce changement. Il y a eu quelques morts aussi. Enfin, ça a été un ras-le-bol général de la population qui avait envie de s'exprimer et de participer un peu au pouvoir. Et ça a fonctionné au final, puisqu'en 2008, le roi disait, bon, ok, je prends un premier ministre et maintenant il aura autant de pouvoir.
Et donc maintenant, il y a des élections libres.
Oui. Donc c'est tout un vrai tournant de l'archipel qu'on ne vit pas au quotidien et dont on n'est pas assez proche, mais on y retournera, j'espère, l'année prochaine et on pourra en reparler.
D'accord. Ça va. J'avais une question en tête, mais du coup, ça m'a...
J'ai encore trop parlé, c'est ça ?
Non, c'est très bien. On va s'écouter une dernière petite musique de ton groupe néo-calédonien. Donc, c'était deux plus bas sur la liste, c'est ça ? Comment ça s'appelle ? Les nonnes, t'as dit. Voilà. Comment ça s'appelle ?
Ça s'appelle le janissaire.
Voilà, allez, vas-y.
On va mettre le janissaire alors.
Janissaire se désespère. Effléchit les genoux. Pense au sacrifice. Les genoux.
morte. Elle supporte pas leur famille. Oser la trahison. Sortir l'artillerie. Retrouver dignité fraternelle ennemis. Oublier la cause. Se perdre en circonvolution diatomique. Laissez Soliman décider. Laissez Soliman se défaire. Des oripeaux du Bosphore. Jennifer se désespère. Elle fléchit les genoux. Pense ce sacrifice. Pense ce sacrifice. Jennifer se désespère. Elle fléchit les genoux.
Voilà, donc c'était le Janissaire. J'aimais bien l'intro.
Ouais.
Donc, je pense que tu as oublié de mettre un des micros à Victor.
Victor a une petite surprise pour la fin. Ouais, une chanson donc, hautement intellectuelle.
Oui. Attends, mais je voudrais encore poser deux, trois questions sur ton gars, parce que forcément, les gens qui nous écoutent, ils vont parfois en tourisme.
Oui.
Est-ce que toi, tu as eu l'occasion de voir des choses qui t'ont vraiment, enfin au niveau nature ou animaux
Alors animaux, pas forcément parce que j'ai toujours été en ville entre guillemets, on va dire.
Voilà.
Et sur Tongatapu principalement, mais juste l'espace, enfin la géographie est bon. C'est Tonga, c'est plat, on est bien d'accord. Mais il y a une falaise, Ufangaloupé, ça s'appelle, qui est à peut-être 35 mètres, on va dire, et qui est assez imposante puisqu'elle surplombe la mer. Et la plage, enfin, il y a des plages magnifiques avec un petit lagon pas loin, enfin, c'est pas un petit récif pas loin, donc avec des trouées. C'est très particulier, c'est très joli. Il y a une côte de souffleurs aussi où, sur des kilomètres, on a les vagues qui s'engouffrent dans la roche volcanique et qui souffle à des hauteurs différentes et à une cadence différente, et c'est juste magnifique. Et Ewa aussi, où mon cher étende m'avait amené tout au début, parce que moi je suis allée en vacances et je l'ai rencontré, donc je me suis installée à Tonga avec lui. Donc ça a été deux années forcément assez
romantique.
Voilà, magique forcément.
Voilà. Mais... Ah, donc toi t'es allée là en vacances et puis t'es revenue
deux ans plus tard. Je suis pas revenue. Voilà.
Bah ouais.
Et comme j'étais venue en Nouvelle-Zélande pour 9 mois, et j'y suis restée 6 ans.
Pour,
et puis,
3, 4, 5 ans max, hein, ça fait 15 ans.
Voilà.
Mais moi je suis venue avec mon cher étant.
Voilà, voilà.
Donc, ouais. Et puis à Tonga, il y a des baleines.
Voilà, alors ça c'est vraiment mon grand objectif, parce que j'ai plusieurs amis qui l'ont fait, qui ont nagé avec... Nous on les avait vus, une fois Soane on l'avait vu, une baleine avec un baleineau, et on l'avait suivi, mais de la côte. On l'avait suivi de la côte, donc on la voyait, on la regardait évoluer, puis après on reprenait la voiture, on allait sur un autre côté, une autre baie, et on était en hauteur encore, et on a pu la suivre comme ça. Elle n'était pas très loin du rivage, et c'était super.
C'était pas mal.
Ouais, c'était super.
Parce que nous quand on est à Tonga, on n'a pas eu de chance. On était vraiment à la fin de la saison, et du coup, on n'en a pas vu.
Ouais, moi, j'espère vraiment, si ça se passe bien, qu'on y aille l'an prochain et qu'on puisse aller nager avec les baleines.
Oui, ça doit être impressionnant.
Moi, ouais, c'est nous, impressionnant.
Nous, si on en avait vu, on était sur un bateau, on pouvait nager avec eux.
Ouais.
Je suis pas sûre que je l'aurais fait.
J'ai qu'une hâte, c'est de plonger avec.
C'est vrai?
Ouais.
Parce que c'est quand même...
Ouais, c'est balèze, mais elles sont... Enfin, il n'y a jamais eu d'accident reporté, donc il n'y a pas de souci.
Ben non, j'imagine bien que s'ils le font, c'est que c'est relatif. Mais je veux dire, c'est quand même...
C'est un des seuls lieux avec Tahiti, je crois, où on peut encore s'approcher aussi près. En Calédonie, les baleines passent également, hein. Il y a une migration à peu près à la même époque. Mais tout est organisé, on ne peut être que sur des bateaux et des bateaux... qui font partie d'un organisme, on peut pas aller avec son bateau particulier, sauf en respectant les règles qui sont de pas s'approcher à moins de 200 mètres ou quelque chose comme ça, et 300 mètres s'il y a un bébé. Enfin, c'est vraiment très très encadré parce qu'on respecte moins, je pense.
Ouais.
Et à Tonga, c'est beaucoup plus respecté, la nature est beaucoup plus respectée. Hein.
Oui, c'est vrai que moi ça c'est quelque chose qui m'avait assez fort choqué en Nouvelle-Calédonie, c'était le manque de respect de la nature, notamment. Les gens qui marchaient sur le corail.
Oui.
Ça, c'était un truc qui m'avait vraiment choqué en Nouvelle-Calédonie.
Qui surpêche la langouste pour.
Ouais, il y avait vraiment très peu de. En fait, les locaux respectaient pas beaucoup. Du coup, il y avait pas le fait qu'ils disaient tout le temps aux touristes de respecter. Du coup, les touristes respectaient pas non plus. Et donc, en fait, il y avait vraiment. Enfin, c'était vraiment l'impression que j'avais eue. De la Nouvelle-Calédonie. Et c'est vrai que Tonga, ça avait l'air beaucoup plus respectueux. Et puis c'est...
Bon, il y a un problème de pollution aussi, comme partout. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de plastique. Quand avant, un Tongien, il lançait une peau de banane, ça allait. Puis après, il s'est mis à lancer une couche, c'est plus pareil, quoi.
Ouais.
Donc à la plage, c'était quand même un souci de nettoyage. Mais après, comme il n'y a pas une grosse population, ça va quand même, quoi.
Oui, c'est toujours le problème.
Un beau pays à découvrir.
Ouais, enfin, moi j'y suis restée qu'une semaine ou 10 jours et j'ai fait qu'un tout petit bout.
Non, c'est énorme, il y a beaucoup de choses.
Et puis les gens étaient très très sympas.
Oui.
Ça c'est vrai que. Oui. Enfin, nous en plus, on a eu un enfant malade, on a quand même fait un petit passage par l'hôpital et les gens étaient super gentils. Ils voulaient nous laisser passer d'abord alors que bon, il n'avait jamais qu'un gros virus.
Non, mais parce que bon, quand on est un occidental ou une peau blanche, entre guillemets, on est de toute façon au-dessus.
Oui, c'est ça qui me gênait un peu, c'est qu'il ne voulait pas qu'on attende parce qu'on était blanc. Mais j'étais mais vous êtes un peu plus malade
blanc,
que lui
blanc,
qui a juste un peu de température.
Ouais, blanc dans le sens extérieur au pays et donc prioritaire.
Ah, ok. Ben voilà, donc c'était une émission aux quatre coins du Pacifique. Donc le Costa Rica, Tonga. Tonga, c'était pas vraiment le côté touristique, c'était plus le côté de quelqu'un qui a vécu. Très, très sympa, très intéressant. Merci.
Avec
tu reviens
plaisir.
Quand tu veux nous faire partager, parce que en fait, toi, t'as vécu partout, dans des endroits insolites.
Oh, bon, allez.
Allez, voilà. Laurence, c'est notre nouvelle. On l'aime beaucoup et on va la mettre à toutes les sauces. Vous en aurez peut-être marre à la fin, mais nous pas. Voilà. Alors, à la semaine prochaine. Donc, tout le monde dit au revoir, là. Donc, il y avait Anatole, Victor.
Au revoir.
Laurence, Caroline et moi-même, Fred.
Au revoir.
Voilà. Et Victor nous a choisi une musique. J'en ai peur. À bientôt. Ha 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 ha